Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Salut, salut, bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro 83, si je ne me trompe pas, du podcast eTeachers. Salut Seb, comment vas-tu ?
Salut Guillaume, ça va et non, tu ne te trompes pas.
C'est bien assez rare pour le signaler. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cette 83e émission. Jeff n'est pas là ce soir parce que il ne pouvait pas, tout simplement. Notre Seb américain non plus, parce que c'est toujours très compliqué, comme vous le savez, si vous nous suivez, pour lui, de se connecter aux heures à laquelle on fait ces émissions. Mais ce soir, nous sommes très heureux puisque nous avons un invité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité dans les Teachers. Et je pense qu'on a devant nous une émission qui, ma foi, va intéresser un paquet de nos fidèles auditeurs, n'est-ce pas Seb ?
Tout à fait, on reçoit une personne qui est quand même connue dans le milieu. On avait eu le plaisir de l'accueillir sur le plateau de Ludo Live avec Jeff à l'époque de Ludovia. Et il nous fait le plaisir de se joindre à nous, pardon, pour ce soir. Et bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir Sébastien. Enchanté d'être là et ravi d'être là.
Eh bien, écoute, nous aussi, alors c'est très rigolo puisque Seb a commencé en disant que tu étais connu dans le milieu. J'espère que ce n'est pas dans le milieu du grand banditisme.
Non, je ne pense pas.
Bon, ça va aller alors. Bon, écoute, sans plus attendre, je vais te demander rapidement de décliner ton identité. Enfin, surtout, nous expliquer un petit peu quelles sont tes missions aujourd'hui, dans quelle académie tu te trouves et peut-être, entre guillemets, ce qui constitue ton travail au quotidien.
Pas de souci. Donc, en fait, je suis à la base professeur des écoles et je suis détaché sur plusieurs missions. La première qui est enseignant référent aux usages du numérique. Donc, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans les usages du numérique. J'accompagne également les municipalités dans les équipements. Voilà. Donc, ça m'occupe déjà à mi-temps. J'ai une mission de professeur des écoles maître formateur mathématiques suite au rapport Torossian-Villani. Donc, il a été créé dans chaque circonscription un PEMF math pour accompagner les enseignants de CP. Et ma troisième mission, c'est la formation initiale à l'ESPE de Bonneville. Voilà. Je ne sais pas si j'ai précisé, je suis donc dans la circonscription de Saint-Gervais, Pays du Mont-Blanc. Voilà, la plus haute circonscription de France.
Waouh ! Donc, c'est l'Académie de Grenoble ?
Oui, Grenoble.
Académie de Grenoble, l'ESPE de Bonneville. Bonneville, j'y ai de bons souvenirs là-bas. Très bien, super. Donc, en fait, quand tu parles de conseils auprès des collectivités locales, c'est sous ta casquette de… C'est pas sous ta casquette ESPE, ça. C'est ta casquette plutôt des SDEN, ça. Hein.
Voilà, sur la casquette référent numérique. Là, d'ailleurs, j'étais ce matin dans une commune parce que c'est vrai qu'ils sont un peu démunis, eux, pour savoir… qu'est-ce qu'ils doivent acheter et qu'est-ce qui répond en fait aux usages des enseignants. Donc en fait, je fais le lien entre les équipes enseignantes et les municipalités pour définir en fait leur politique d'équipement et voir comment on peut sur plusieurs années en fait planifier un équipement, idéal pour une école. Voilà.
Et ben justement, tiens, ça sera ma première question sur cette mission-là. Aujourd'hui, dans ta circonscription, quelles sont justement les politiques des collectivités par rapport à ça ? Quel est l'équipement idéal ? Vers quoi on se tourne ? Quelles sont les demandes ? Qu'est-ce que tu vois dans ta circonscription ?
Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu de recul là, par rapport aux équipements parce que ça fait quand même 11 ans que je suis sur ce poste-là. Et je vois quand même les évolutions. Voilà, on est passé de salle informatique dans les écoles vers maintenant un équipement au plus proche des élèves. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs phases. on a beaucoup, on a, comment dire, on a incité les collectivités déjà à câbler de plus en plus les classes pour pouvoir rapprocher les ordinateurs des élèves. Parce qu'on s'est rendu compte que quand les ordinateurs étaient en salle informatique, et ben on était sur des activités très ponctuelles. Et puis la salle informatique, on l'a pas forcément quand on en a besoin, mais quand on l'a planifié sur un emploi du temps, et ça correspond pas forcément au moment où on souhaite en fait recourir aux ordinateurs pour faire une recherche ou pour faire un travail d'écriture. Donc l'idée, voilà, c'est de rapprocher les ordinateurs dans la classe. Donc il y a eu un peu une phase de transition où on s'est tourné vers les classes mobiles. On a tous pensé que c'était une solution un peu miracle parce que ça permettait de mutualiser le matériel, d'en acheter moins, parce qu'on pouvait se le prêter entre classes. Puis on s'est rendu compte au bout de 2-3 ans que c'était très lourd au niveau gestion, c'est-à-dire que déplacer un gros meuble avec 15 postes, eh ben, ça demandait déjà un peu de force, puis un peu de temps aussi. Et tout réinstaller entre deux récréations d'une classe à l'autre faisait que c'était tellement lourd que les enseignants, au bout du compte, n'utilisaient plus les classes mobiles parce que ils n'avaient pas le temps en fait de tout mettre en œuvre pour que les ordinateurs soient vraiment dispo au début de la séance. Donc maintenant, on tend. Oui, pardon.
Je vois Seb qui acquiesce un petit peu parce qu'il est dans le premier degré aussi.
Là, j'ai l'impression de revoir, parce que moi, toutes les étapes, je les ai connues, donc ça va. Ouais.
Donc, ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est vrai, quand en plus un matériel est mutualisé, ce n'est pas le sien, on ne sait pas forcément dans quel état il est, il n'a peut-être pas été rechargé, un autre peut-être a effacé le logiciel qui nous plaisait bien, ou on a perdu un document. Donc, l'idée vraiment maintenant, c'est de mettre le matériel dans la classe, que ce soit le matériel de l'enseignant, des élèves, il sait ce qu'il y a dessus, il sait comment ça fonctionne, il se l'est approprié, et il peut l'utiliser quand il en a vraiment besoin. Voilà. Donc là, ce matin, justement, on définissait un peu avec une mairie d'une petite commune quel serait l'équipement un peu idéal de cette école-là. Et on retrouve un peu le même profil dans toutes les autres écoles. C'est déjà, premièrement, un outil un peu collectif pour la classe. Donc, ça va être le tableau numérique interactif. Ça me paraît incontournable. Et quand on me dit parfois, tiens, on va commencer peut-être par acheter un vidéoprojecteur, ça suffit peut-être, et puis après on verra. Je le déconseille beaucoup parce que le vidéoprojecteur, on en voit vite les limites, et après on a envie de passer au TNI, sauf que là, quand on a fait un investissement sur un vidéoprojecteur, faire entendre à la mairie, ben non, au bout de 2-3 ans, on change et puis on va acheter un TNI, ben ils font un peu la grimace, et puis c'est un peu normal. Donc j'incite les collectivités justement à peut-être aller... à prévoir d'entrée de jeu un TNI parce que de toute façon on va y aller quoi, voilà. Et puis de compléter par je vais dire 3, 4, 5 ordinateurs en fond de classe, voilà. L'idée c'est de tendre vers à peu près un ordinateur pour 5 élèves, donc en gros 5 ordinateurs en fond de classe. Donc ça c'est vraiment, je dirais, un équipement de base qui développe les usages du numérique. J'ai un informaticien qui a comparé en fait le nombre de connexions. Il m'a dit ça ce matin, ça m'a beaucoup, ça m'a surpris. Et non, je veux dire, mais par contre, voilà, pour une fois, j'avais une donnée chiffrée. Il a mesuré le nombre de connexions dans une école avec des salles informatiques et le nombre de connexions dans une école où les ordinateurs ont été mis en fond de classe. Ça a été multiplié par 2 voire 3. Donc voilà, on sent que l'implantation des PC dans une école a quand même une incidence sur les usages. Après, je ne parle pas de la qualité, là, je parle juste de la quantité. Voilà.
De toute façon, ce que tu dis, c'est quelque chose que moi, j'ai observé dans le second degré, à savoir qu'on a connu aussi les classes mobiles dans le second degré qui n'ont, pour toutes les raisons que tu as évoquées, jamais marché, encore plus dans le second degré avec des établissements plus grands, avec des histoires même d'ascenseurs, de chariots, autres, enfin voilà. Et depuis que, alors nous c'est très compliqué dans les établissements d'avoir dans chaque classe, qu'elles sont très très nombreuses, autant de PC comme tu le décris, donc c'est pour ça que là les investissements ont plutôt été faits sur des tablettes. Et c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que moi c'est ce que je dis en formation, le problème c'est que une salle informatique, comme tu dis, des fois on y va, mais en fait on a besoin de travailler 20 minutes en salle informatique et on aurait besoin de revenir dans son environnement normal après pour continuer le travail sans forcément avoir la contrainte de la disposition de la salle informatique. Et c'est vrai que pour ça le matériel dans la classe c'est vraiment quelque chose qui est, et puis voilà, on prévoit pas toujours et de se dire on a besoin, et puis ben tiens, tel élève va faire une recherche, va faire ci, sans l'avoir forcément prévu, sans avoir réservé le matériel à l'avance, quoi. Voilà.
On n'imaginerait pas que dans une classe, le dictionnaire soit situé en fait au dernier étage du bâtiment. On va le chercher une fois, on va le chercher une deuxième fois, mais la troisième fois, bon, on se dit, bah, le mot, on va l'écrire comme on pense, on ne va plus chercher le dico. Quoi.
Voilà. Ah, très belle image, Christophe.
Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. D'accord, donc ça, c'est quelque chose qui… Et comment tu, aujourd'hui, tu sens le retour des collectivités par rapport à ce conseil? Est-ce qu'elles te suivent? Est-ce qu'elles ont toujours beaucoup de contraintes budgétaires? Je veux dire, ça fait 11 ans que tu vois ça. Est-ce que y a beaucoup de débats aujourd'hui de collectivités qui freinent un peu des cas de fer aussi par rapport à des équipements massifs de ces dernières années? Comment c'est chez toi par rapport à ça?
Moi, je sens pas vraiment de frein. C'est vrai que c'est un gros travail à faire avec elles. Il faut être à leur côté, je veux dire, pour leur expliquer ben, pourquoi on fait de l'informatique à l'école, pourquoi on a besoin du numérique. Donc ça, on a besoin d'être là pour parce qu'ils comprennent pas forcément. Ils disent, mais tiens, pourquoi on n'a pas besoin de d'ordinateur? Ils en font déjà assez à la maison. Donc on leur explique pourquoi à l'école, c'est important qu'on accompagne les élèves dans les usages du numérique, parce que à la maison, ils sont peut-être confrontés tout seuls à ces outils-là. Et nous, notre rôle à l'école, c'est bah, de leur montrer qu'il y a d'autres usage peut-être que YouTube, enfin j'ai rien contre YouTube, mais on sait ce que font les élèves quand ils rentrent à la maison, ils sont sur Candy Crush ou sur YouTube ou sur Minecraft, voilà. Alors c'est très très bien aussi, mais leur montrer qu'il y a d'autres usages, donc ça il faut leur expliquer aux mairies. Donc moi je sens pas vraiment de frein, je dis, parce qu'il y a eu une grosse évolution là ces dernières années. On est arrivé, nous, sur la circonscription, à faire câbler déjà toutes les classes. Donc déjà, c'est super pour au moins rapprocher les ordinateurs dans la classe. Il y a eu des très gros investissements en tableaux numériques interactifs. Voilà. Alors, on n'a pas toutes les classes équipées, hein. Je mentirais si c'était pas. Mais on a quand même des écoles où on a plusieurs écoles où toutes les classes sont équipées. Et les plus grosses communes tendent vers l'équipement d'un TNI par classe. Alors, on n'y est pas encore, hein, mais on n'en est pas loin. Voilà. Donc, il y a un très gros effort qui a été fait là-dessus. Mais par contre, le travers, c'est qu'on a mis, voilà, elles ont mis pas mal d'argent sur le câblage, les TNI, mais on en a un peu oublié ces derniers temps les post-élèves. Donc maintenant, en fait, on revient un peu, on reprend notre bâton de pèlerin, on refait le tour un peu des communes pour leur dire, mais c'est bien beau un TNI, on fait des choses extraordinaires avec, on a Internet qui est arrivé dans la classe, mais maintenant, ce qu'il faut développer, c'est les usages élèves. Voilà.
Oui, de toute façon, c'est l'éternel. C'est pas quelque chose qu'on pourra arrêter à un moment, malheureusement, avec l'informatique. Toujours quelque chose à renouveler. Et d'ailleurs, on va faire une petite transition. Toutes ces choses à renouveler, moi, je ne te connaissais pas de cela. Et par ce biais-là, quand j'ai dit que tu étais connu dans le milieu, c'est que tu fais quelque chose qui nous rapproche avec notre podcast, c'est que tu fais une veille de qualité. Est-ce que tu peux nous dire sur quel support tu fais cette petite veille et comment tu es venu à être quelque chose? Tu es quand même une référence maintenant, hein, mine de rien.
Je ne sais pas si je suis une référence, mais…
Non, commence pas à faire le modeste.
Non, en fait, j'ai eu l'opportunité. Un jour, je me suis lancé. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un site et puis de partager toutes les ressources que… Les ressources que je croisais dans les classes ou que je proposais aux enseignants. Donc, petit à petit, en fait, donc j'ai construit un site qui s'appelle Classtis. Donc, l'adresse, voilà, c'est http://classtis.cla2s.e. Donc, j'ai commencé modestement ce site et puis, au fil de mes découvertes, eh ben, il a grandi. On m'envoie maintenant des ressources pour que je les partage, voilà. Et puis, depuis que je suis sur Twitter, ça fait, je sais pas, moi, 3-4 ans, j'ai l'impression. Alors là, j'ai explosé en termes de veille. Twitter m'a permis de découvrir de super outils, de faire plein de rencontres et du coup, eh ben, le site a grandi aussi en proportion. Voilà.
Ah oui, non, mais bon, quand je dis que tu fais une référence, c'est que souvent j'ai eu des recherches à faire et souvent je suis tombé sur ton site.
Franchement, merci.
Non, mais c'est que même au bout d'un moment, j'ai eu du mal à me dire, mais oui, mais c'est le même en fait qui fait les articles. Tu sais, tu as cherché il y a des années, oui, ah oui, c'est vrai. Ça fait combien de temps que tu tiens ce site du coup?
Je dirais que ça fait, je pense que ça fait 4-5 ans, voilà. Ça fait 4-5 ans. Et puis j'ai voulu une entrée vraiment disciplinaire. Je voulais pas un site axé sur les outils, sur la technique. Donc j'ai vraiment fait. Donc c'est vraiment un site dédié, bon, premier degré, hein, parce que moi je suis là, je connais pas trop après ce qui se passe au collège ou au lycée. Puis on ne peut pas tout balayer, ce n'est pas possible, parce que déjà, dans le premier degré, au niveau du numérique, il y a de quoi faire. Donc, j'ai voulu une entrée disciplinaire, c'est-à-dire que les menus, on va retrouver français, mathématiques, histoire, géographie, sciences. Voilà, on va rentrer par les disciplines et par là, on va trouver peut-être comment on peut enseigner l'histoire avec des outils numériques ou comment on peut différencier avec le numérique en mathématiques. Voilà. Donc, il y a aussi une entrée outils, effectivement, parce qu'après, il y a certains outils qui peuvent s'utiliser dans toutes les disciplines, mais je tiens beaucoup à cette entrée disciplinaire sur mon site. Voilà.
On est d'accord que ce travail de veille que tu fais, il est un petit peu comme Noé qui teacher, c'est-à-dire qu'il est bien évidemment lié à ton emploi au quotidien, mais c'est pas dans une lettre de mission, je veux dire, c'est une démarche avant tout personnelle quand même.
Alors si, c'est quand même dans notre lettre de mission d'enseignant référent. On a une partie veille parce que on doit quand même se tenir au courant des
outils. Cette veille, tu peux la faire pour toi, mais le fait de publier sur un site qui est personnel quand même, je veux dire, c'est toi qui en payes le nom de domaine, c'est pas quelque chose qui est publié sur… Tu vois, parce que moi, je me pose souvent la question, parce qu'on est tous… Nos missions sont toutes poreuses. Moi, je suis exactement comme toi. Enfin, toi, t'enseignes peut-être plus. Moi, j'enseigne encore quand même avec des élèves. Après, je suis aussi formateur à l'ESP. Je suis dans le secondaire, ce qu'on appelle un interlocuteur académique pour le numérique et un Yann. Et voilà, ce travail que je fais de veille avec Teachers ou même sur mes sites personnels, ça me sert dans ma mission d'interlocuteur, mais iTeachers, c'est encore iTeachers qui paye l'abonnement, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la DAN de notre académie qui va financer ça, même si voilà, c'est plus comme ça que j'imaginais la chose.
Alors moi, c'est vrai que du coup, cette veille, elle se traduit déjà dans le site, parce que je publie sur le site de la circonscription de Saint-Germain.
Ah d'accord, ok. Voilà.
Je publie sur le site TIS74, c'est le site des référents numériques du département. Et après, sur le mien aussi, mais je ne publie pas les mêmes choses, voilà, parce que ce n'est pas la même ligne éditoriale. J'ai peut-être un peu plus de liberté, moi, sur mon site personnel pour publier certaines ressources. Voilà. Et puis, je préfère publier sur le site de la circonscription des ressources ou des outils que je sens plus adaptés aux enseignants de la circonscription ou plus en lien avec les projets qu'on porte avec les conseillers pédagogiques. Voilà.
Très bien, super.
pardon. Par rapport à ce site, j'ai remarqué que tu récupères certaines… J'ai vu dernièrement, parce que ça m'a frappé, c'est quelque chose que j'ai utilisé, que tu avais l'écriveron qui était venu sur ton site.
Ouais, donc à un moment, il y a donc Philippe Tassel, l'inventeur des mini-livres, qui a lancé une petite bouteille à la mer parce que il souhaitait en fait léguer son outil de création de mini-livres. Alors moi, ça fait tilt tout de suite. J'ai dit on peut pas abandonner cette petite application qui est toute simple, basique, mais qui pédagogiquement en fait on fait des merveilles avec. Voilà. Et donc, j'ai répondu à l'appel et Philippe m'a entre guillemets légué. Alors, je ne serai pas le seul dépositaire parce que je crois que ça va être aussi sur Abulédu, voilà. Mais il m'a accordé sa confiance et du coup, j'héberge en fait l'outil de création des mini-livres. Voilà. Alors, on est à cheval sur un outil papier et numérique parce que c'est une petite application très basique où on va rentrer le titre, on va rentrer le nom de l'auteur, on va rentrer du texte au kilomètre et ça va permettre d'éditer, pour ceux qui ne connaissent pas, donc une page A4 qu'on va pouvoir plier. Donc, il y a même une petite vidéo explicative pour les élèves que les élèves peuvent même regarder en boucle parce qu'au départ, la première fois, on est un peu gauche quand on plie. Après, ça devient, c'est vraiment un jeu d'enfant et ça permet de développer l'écrit dans la classe et on fabrique très facilement un mini-livre support papier. Voilà.
Moi, je te dis bravo, parce que c'est un outil que j'ai utilisé. J'ai pris une autre chose, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel quand on veut mettre en valeur, par exemple, les écrits des élèves, plutôt que de les laisser dans le classeur où ils vont dormir, etc. Il y a toujours un petit côté magique avec la création du
ouais.
C'est rien, c'est une feuille A4. Moi, chaque année, maintenant, j'en édite, mais c'est vraiment un passage obligé. Mais ce n'est pas le seul, en plus, que tu as réussi à faire partager sur ton site. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a d'autres que l'on aime beaucoup, pas seulement dans le primaire, je dirais, des petits livres aussi, toujours dans la même thématique.
Alors, lesquels? Parce que du coup, j'en ai tellement que...
Non, je pense aux petits fascicules que tu...
Ah, aux petits fascicules, d'accord, ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est, j'ai vu circuler en fait un travail de David Cohen, je crois qu'il est dans l'Académie d'Aix...
De Nice.
Marseille. Ça va, oui, voilà. Et qui diffusait des petits, donc ce qu'il appelait des petits fascicules, c'est, alors je ne sais plus son slogan, c'est
comment
quelques pages... Oui, il a un petit... ça s'appelle 7 pages pour voilà, 7 pages pour défricher un thème. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, mais c'est dommage que tu diffuses ça sur Twitter. Ça s'envole. Il faudrait l'héberger quelque part. Et là, il m'a dit, ben banco, allez, il n'y a pas de souci, tu peux l'héberger sur le site. Et du coup, on en est venu à coopérer parce que, bon, lui, il a sorti quelques petits fascicules sur des thèmes qu'il maîtrisait bien, comme la classe inversée, comme sur des thèmes sur l'art aussi. Et j'ai dit, mais ça serait bien, est-ce qu'on pourrait collaborer aussi sur l'élaboration en fait, de mini-fascicules? Donc, pareil, il a dit banco. Donc, on en a sorti un ensemble. Sur les usages du numérique dans le premier degré, donc en deux tomes, et après un deuxième en collaboration avec, alors là ouais, j'ai perdu son nom maintenant, c'est honte à moi, Nicolas Lemoine, qui est professeur de mathématiques, je crois dans l'Académie de Créteil, si je ne dis pas de bêtises, autour de Paris, quelque part là-bas il me semble, voilà, et on a sorti donc un petit fascicule sur les mathématiques, parce que c'est aussi un peu mon domaine, voilà.
Vous en êtes un, attends, tu en as combien là en ce moment?
Alors je crois qu'on en a 14 ou 15, si je dis pas de bêtises, et 4 hors série. Alors moi, honnêtement, c'est David Cohen qui fait un gros travail en fait de mise en page, de graphisme. Voilà, il est vraiment excellent. Hein, ouais. Et puis, là, il s'entoure d'autres enseignants. Il collabore donc avec d'autres enseignants pour essayer d'avoir une offre très large au niveau des thèmes qu'il aborde.
Eh bien, bravo.
Effectivement. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu maintenant de ta casquette de formateur. Et d'abord, aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui paraîtrait essentiel? Imaginons que tu doives enseigner, qu'il te faille enseigner des infos numériques ou en tout cas des outils numériques à des gens qui n'en auraient jamais entendu parler, on va dire. Qu'est-ce qui paraîtrait être vraiment essentiel dans la formation aujourd'hui?
Alors, dans la formation initiale ou la formation des enseignants?
Eh bien, je sais bien, c'est bien pour ça que je pose un peu l'action. On va commencer par la formation initiale. Voilà, ton volet SP d'abord.
Alors, le volet SP, oui. Donc, effectivement, alors là, on doit faire un sacré numéro de cirque. Enfin, numéro de cirque, non, c'est pas numéro. Je me suis mal esprit.
Non, vas-y, je peux le dire. Non,
mais un numéro, je veux dire, un numéro d'équilibriste.
D'équilibriste, voilà. Ouais, voilà.
Parce que on a très peu, je crois qu'on a 6 séances de 2 heures pour faire le tour, alors je ne dirais pas de tous les outils numériques, mais parce qu'il se passe beaucoup de choses autour du numérique, donc en 12 heures, c'est compliqué de faire rentrer tout ça, surtout qu'on doit aussi les accompagner sur la mise en œuvre d'un projet, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre un peu les mains dans le cambouis, tester un outil numérique avec leurs élèves et en faire un retour d'usage. Voilà. Donc, on doit faire tout ça en 12 heures. C'est assez compliqué. Donc, moi, souvent, je rentre avec eux. J'essaie de les faire réfléchir un peu sur… je leur montre en général, en tout début, une petite vidéo sur l'usage d'un TNI en classe. Et on débat ensemble sur ce qui leur semble pertinent avec cet outil numérique, ce qui s'est passé dans la séance, qui semblait, en quoi l'outil numérique pouvait aider les élèves et leurs enseignants, ou en quoi il pouvait être aussi un obstacle. Voilà. Je veux leur montrer que je ne suis pas non plus un pro numérique à 100% et leur dire que parfois, ben, il vaut mieux se passer d'un outil numérique, on est plus efficace parfois avec un stylo et une feuille de papier. Donc déjà, pour qu'ils aient un regard critique par rapport aux outils. Parce que souvent, ils partent du principe que je vais utiliser un TNI, je vais utiliser un ordinateur, les élèves vont être motivés. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? Quand un TNI arrive dans un tableau interactif, arrive dans une classe, ben effectivement, le premier jour, les élèves, ils ont les yeux écarquillés, ils sont attentifs, donc c'est miracle, ils m'écoutent, en fait, tout se passe bien dans ma séance. Mais au bout de 3 jours, quand ils commencent à comprendre qu'un tableau interactif, c'est pour faire la conjugaison ou du calcul, eh ben là, l'attrait de l'outil, eh ben on le perd. Voilà. Donc, j'essaye vraiment de leur expliquer que ce qui fait la motivation des élèves, ce n'est pas l'outil qu'on va utiliser, c'est vraiment la démarche qu'ils vont avoir et la séquence qu'ils vont mettre en œuvre autour de cet outil qui va être motivant. Donc, c'est le dispositif qu'ils vont mettre en place, voilà, et non pas l'outil.
Est-ce que tu ne penses pas, justement, dans cette réflexion, que finalement, avoir 12 heures sur l'usage du numérique à proprement parler, aujourd'hui, ce n'est pas un peu incongru et qu'il ne faudrait pas que finalement ces usages soient intégrés dans les modules de didactique des différentes matières. Parce que finalement, c'est un outil comme un autre pour adapter à une matière.
Ouais, alors j'en rêve. Parce que dans l'idéal, ce qu'il faudrait effectivement, ce n'est pas que j'ai un cours à part, c'est vraiment que je puisse intervenir avec les autres professeurs de l'ESP, les autres professeurs disciplinaires en mathématiques en français. Et voir en quoi le numérique permettrait peut-être dans une séance de français, une séance d'écriture, d'aider les élèves, ou en quoi le numérique permettrait en mathématiques ben, peut-être de mieux comprendre certains concepts. Je rêverais de faire ça, mais techniquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que déjà, j'interviens à l'ESP ponctuellement, je ne suis pas à 100% de mon temps. Les professeurs d'ESP, c'est un peu la même chose. Ce sont des gens qui interviennent à quart-temps, à mi-temps. On a vraiment du mal à se voir. Et du coup, moi, ça me demanderait un temps de présence que je peux pas assurer. Il faudrait que je sois en plein temps à l'ESP et que je travaille en collaboration avec tout le monde toute la semaine. Voilà, ce n'est pas possible.
Bien sûr.
Et c'est dommage.
Très bien. Très bien.
Alors par contre, ça, c'est quelque chose que nous, on a rendu possible en circonscription parce que j'ai de la chance, en fait, de travailler avec deux formidables conseillers pédagogiques, il faut que je le dise, Jean-Paul Zampin et Carole Corté. Et chaque fois qu'ils conçoivent une formation ou qu'ils pensent à un dispositif, eh bien, tout de suite, ils ont la petite étincelle numérique et ils se disent « Tiens, on pourrait faire ça avec le numérique. Oh Christophe, est-ce que tu pourrais pas me trouver un outil pour faire ça ?» Voilà. Donc, j'ai deux conseillers pédagogiques qui, eux, font appel à moi. Alors, du coup, c'est un avantage parce qu'on travaille tout le temps ensemble et puis on est très complémentaires. Mais à côté de ça, l'inconvénient, c'est qu'ils me sollicitent tout le temps. Mais bon, je leur en veux pas, je les remercie. Mais là, par contre, effectivement, on arrive à apporter une dimension numérique dans la dans les formations qu'on propose, les formations disciplinaires qu'on propose. Et effectivement, puisqu'on est tout le temps ensemble, c'est beaucoup plus facile en fait de coopérer que ce qu'on peut le faire à l'ESP, où on a un fonctionnement un peu à l'ESP type collège. Hein. Je veux dire, je pense que des professeurs de collège ont aussi un peu de mal à travailler ensemble parce que du fait du fonctionnement du collège, de leur emploi du temps, eh ben, ils ne sont pas forcément amenés à se rencontrer comme on peut se rencontrer et discuter quand on est dans le primaire, dans une école où on vit en fait toute la semaine ensemble.
Mmh, tout à fait.
Voilà.
Tu n'allais pas dire quelque chose, je crois que tu
disais. Excuse-moi, non. Et par contre, j'ai un petit écho, je ne sais pas si vous.
Ouais, moi aussi, j'ai un petit écho de temps en temps, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on coupera ça. Ou... Jeff le coupera. Ok. Et j'aurais voulu maintenant. Seb, tu as quelque chose d'autre à dire sur ce volet-là
non, ou... Ce sera plutôt sur la fin, c'est sur ces projets actuels que j'aimerais relancer.
Très bien. Et ben maintenant, par rapport à donc plutôt à ta discipline, donc c'est les maths, hein, c'est ça, je crois, vraiment plus particulièrement.
Oui.
Voilà. Comment tu vois l'arrivée de tout ce qui concerne le code, de ces nouveaux programmes, du comment tu accompagnes les enseignants, surtout dans les petites classes? Est-ce que tu fais ça dans les petites classes? Enfin, comment tu vois un peu la matière évoluer et bien sûr avec le numérique, bien évidemment.
Alors, tout ce qui est code, codage robotique, c'est ça?
Oui, oui, voilà, par exemple.
D'accord. Alors ça, c'est vrai que moi, je ne suis pas le grand spécialiste et je m'inspire surtout en fait d'une circonscription voisine à Évian qui a lancé un festival maintenant qui commence à être reconnu, les robots d'Évian. C'est une circonscription qui a beaucoup travaillé autour du code, du codage, de la robotique et qui nous a beaucoup apporté, nous, à tous les enseignants référents du département. Donc, je me suis beaucoup inspiré de leurs travaux justement pour accompagner les enseignants dans notre circonscription. L'année dernière, on a proposé en fait une formation qui allait du cycle 1 au cycle 3 sous forme de petits ateliers où on a je vais dire, initié, mais vraiment modestement, les enseignants au codage. On leur a fait découvrir des petits robots, pour ceux qui connaissent les Bluebot et les Bebot, qui sont d'un accès très facile et pour les élèves et pour les enseignants, qui permettent en fait de coder des déplacements. Voilà. Et puis, on est allé aussi vers l'utilisation des robots Timio qui permettent effectivement là, la programmation qu'on peut aborder après en cycle 3. Mais la finalité, ce n'est pas forcément de programmer un robot, c'est vraiment de mettre en œuvre une démarche expérimentale autour des robots. Ça, c'est intéressant. Oui. Donc, j'ai pu accompagner effectivement. Alors, je n'ai pas les moyens d'accompagner tous les enseignants dans la robotique, ce n'est pas possible, mais j'ai pu accompagner quelques classes ou lors d'un festival qu'on organise, le FestiScience, sur notre circonscription, on a pu mener des ateliers et organiser en fait accompagner des enseignants dans les usages de la robotique. Voilà.
Ok, est-ce que je te relance sur ton gros dernier projet? Un projet collaboratif, un projet à la limite entre Instagram et la pédagogie des mathématiques.
C'est vrai qu'il y a notre Dan Adjoint au premier degré qui appelait ça l'Instagram, je crois, des mathématiques. Voilà, il a titré ça sur prime abord, je crois, vers un Instagram des mathématiques, ouais, effectivement.
Bah écoute, moi, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben oui, il y avait le foot porn, c'est-à-dire cette manie de photographier sa nourriture, et puis. Christophe, il a inventé le mat porn.
Alors, on n'a pas forcément tout inventé. On sait quand même. Oui.
Est-ce que justement, parce que par exemple, moi, je ne connais pas le dispositif, tu peux vraiment raconter la genèse de ce projet et en quoi ça consiste? Parce que je pense que tout le monde ne voit pas exactement de quoi il retourne.
D'accord. Alors, je vais vous expliquer. J'ai combien de temps? Parce que je peux être très bavard sur ce sujet-là. Donc, il faut me couper.
Hein. T'as du temps, t'inquiète pas, pas de problème.
D'accord. Donc, en fait, ce projet, ça s'appelle Mat Envie. On s'est inspiré en fait d'une correspondance entre deux classes du Canada, des élèves qui photographiaient leur environnement, ils photographiaient leur cours de récréation, ils photographiaient la rue autour d'eux, et ils demandaient aux élèves d'une autre classe de retrouver des éléments géométriques en fait, ou des propriétés géométriques dans les photos. Donc ils devaient retrouver par exemple des formes géométriques, ils devaient retrouver des parallèles, ils devaient retrouver des angles droits, voilà. Donc nous, on a trouvé avec Carole, ma collègue conseillère pédagogique sur la circonscription, parce qu'on est vraiment deux à l'initiative de ce projet. Et là encore, on est vraiment très complémentaires parce qu'on a deux visions différentes. Enfin, on a un peu la même vision, mais on a deux approches différentes. Donc du coup, on se complète bien. Donc on s'est dit, c'est intéressant ce dispositif. On aimerait en faire quelque chose d'un peu plus construit, pas simplement qu'un simple défi qu'on pourrait faire au mois de juin entre deux classes, mais en faire quelque chose de plus conséquent qui puisse toucher les trois domaines des mathématiques, donc les grandeurs et mesures, les nombres et calculs, et bon, bien sûr l'espace, c'est la géométrie, et puis de décliner en fait différentes activités pour ancrer les mathématiques au réel, et pour améliorer aussi la résolution de problèmes. Parce qu'on s'est rendu compte que les élèves, les différentes enquêtes le montrent, certains élèves ne mettent pas de sens derrière la résolution de problèmes et font parfois résoudre les problèmes mécaniquement sans réfléchir, parce que ils se sont construits en fait une idée des problèmes en CP parfois, parce que souvent en CP, qu'est-ce qui se passe? On aborde des problèmes additifs, donc ils se sont dit, mais tiens, ça a l'air simple, on prend les deux nombres, on les ajoute. Sauf qu'on se rend compte que ces élèves en difficulté qui ne mettent pas de sens derrière les problèmes, eh bien, qu'est-ce qu'ils font après en CE1 ou à la fin du CP? Eh bien, ils prennent toujours les deux nombres et les ajoutent, sauf que parfois on demande de faire une soustraction, après on demande de faire une multiplication. Donc du coup, on arrive à des élèves qui ne mettent pas de sens derrière ce qu'ils font. Donc l'idée, nous, c'est vraiment de partir du réel, partir du concret et de faire des mathématiques à partir de photos. Parce qu'on se rend compte que le monde qui nous entoure n'est pas en mathématiques, il y a des nombres, il y a des formes géométriques. Et l'idée, donc, c'était de se constituer dans la classe des banques de photos pour pouvoir faire des mathématiques. Voilà. Donc, on a développé un tas d'activités qui vont d'activités très simples qui peuvent être conduites en maternelle de catégorisation, c'est-à-dire qu'on va peut-être soumettre des photos aux élèves et on devra les trier avec des critères mathématiques. Ben, du coup, par exemple, imaginons qu'on prenne des photos de tout ce qui est rond, des élèves, on peut leur dire, ben, tiens, on fait ce qu'on appelle une sortie mathématique, on va dans la classe, on photographie tout ce qui est rond, et après, on va leur soumettre les photos de tout ce qu'ils ont pris, et on va leur dire, ben voilà, ben, maintenant, on essaye de classer tout ça. Ben, il y a quoi? Il y a des ronds, il y a des boules, il y a des sphères, il y a des cylindres. Vous voyez, déjà, on va travailler tout ce vocabulaire mathématique. Et ensuite, donc ça, c'est une première activité un peu de base, je dirais. Mais après, on va aller de plus en plus vers la résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'on va commencer, comme on fait de la lecture d'énoncé de problèmes, parce que quand on fait un problème, forcément, il faut le lire, le comprendre. Et bien là aussi, on va rentrer par la lecture d'un énoncé de problème, mais grâce à une photo. On va déjà prélever des informations sur une photo. On prend le pari que si un élève, en fait, il y a deux possibilités. Hein. Soit on lui donne des données dans un énoncé de problème. Ben dans ce cas, certains n'y mettent pas de sens et en font, je vais dire, une cuisine, c'est-à-dire ajoute tout ça, ou soustrait, ou multiplie, au gré peut-être de l'opération qu'on est en train de voir sur le moment en classe. Et donc, on s'est aperçu que quand l'élève il prélevait lui-même les données sur une photo, et ben, il y donnait du sens et du coup, il les utilisait à bon escient. Voilà. Donc, l'idée, c'est de leur proposer des problèmes à partir de photos et puis surtout que eux, ils puissent construire, écrire des problèmes à partir de ces photos. Parce qu'on se dit que si un élève, il comprend les codes d'un problème, il sait en produire, eh bien, forcément, il sera mieux à même de les résoudre aussi. Voilà. Donc, il y a un gros côté, en fait, production dans ce projet-là, où les élèves vont être producteurs de photos, ils vont prendre des photos, ils vont se poser des questions, et ils vont être aussi producteurs de contenu mathématique, voilà, d'énoncés de problèmes ou d'histoires mathématiques ou même de consignes mathématiques à proposer, par exemple, à d'autres classes.
Et est-ce qu'il y a une volonté que ces photos soient publiées, accompagnées par un texte ou quelque chose comme ça, justement, pour vraiment mettre en évidence le travail ou pas spécialement ?
Oui, alors l'idée, c'est que si on construit les problèmes en classe, quelle meilleure façon de les valider que de les proposer en fait à une autre classe et les soumettre à une autre classe pour voir si son énoncé il tient la route ou d'accord. Si le projet n'est pas. Derrière cette production, il y a forcément une collaboration qui se met en place avec d'autres classes parce qu'on va s'échanger des problèmes et donc on va se les échanger par mail ou soit on va échanger ça via un ENT ou via un site d'école ou via Twitter. Il y a pas mal de classes qui collaborent via Twitter et qui s'échangent des photos, voilà. Et donc on va publier ces photos avec ces énoncés de problèmes pour en fait les proposer à d'autres élèves. Mais c'est un aspect ça du projet, voilà.
Bah, c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette, hein. Vraiment, c'est un beau projet. Après, bon, moi, je suis plus dans le secondaire, donc j'ai du mal à juger de ce que sont capables tous ces petits bonhommes. Mais toi, Seb, tu as peut-être plus de recul là-dessus.
Alors, en fait, si tu veux, moi, je vais juger l'idée par rapport à la reprise qui a été faite par l'ensemble de la communauté. C'est quand même quelque chose que j'ai vu passer et repasser. Et c'est quelque chose que j'ai vu très vite adopté par des solutions très différentes. Moi, par exemple, cette année, je me suis mis à une méthode de mathématiques qui s'appelle la méthode heuristique. Dans le guide de présentation de la méthode, ben, je sais que MathEnvie y est présenté comme une ressource de qualité, quoi.
C'est vrai qu'on est complémentaire, effectivement. Nous, c'est pas une méthode, hein. Voilà, c'est un dispositif, ce sont des activités qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre de sa méthode de mathématiques qui va permettre d'aborder à un moment donné une notion d'une façon différente, voilà, ou d'aborder les problèmes de façon différente. Donc, nous, il n'y a pas d'un petit 1, il faut faire ça, ou petit 2, il faut faire ça, petit 3, il faut faire ça. Il n'y a pas forcément de progression, mais c'est plus une batterie, je vais dire, d'activités qu'on va pouvoir inclure dans sa progression ou dans sa programmation. Et c'est vrai qu'on...
Ça en fait sa force, hein, du coup. C'est, ah ouais. Tu peux l'inclure dans un truc très classique avec ton truc de problème, enfin ton fichier habituel. Tu peux l'inclure dans une méthode un peu particulière. Tu peux l'inclure dans ta méthode que tu as montée toi-même. Donc, non. Et puis ça peut même au-delà de ce que tu présentes, c'est la démarche qui est intéressante de se dire, mais tiens, et si moi demain, j'ai mon téléphone, allez, ben ça peut être pas mal à présenter aux élèves.
Ben, l'autre fois, tiens, je suis sorti de la bibliothèque, la grande bibliothèque de Nice, je me suis dit, ah, ben, ça c'est marrant pour la symétrie, ça pourrait être pas mal. Tiens, allez, je fais un truc avec Christophe.
Ça, c'est après le gros problème quand on commence à rentrer là-dedans, c'est effectivement, en tant qu'enseignant, on ne regarde plus autour de nous comme avant. Et on peut espérer que les élèves, eh ben, si on réussit ça pour les élèves, eh ben, du coup, ils vont se poser des questions déjà sur la géométrie, mais surtout sur les nombres qui nous entourent. Parce que parfois, des élèves sont capables de nous dire, tiens, ils font leurs problèmes, ils calculent, et ils nous disent, papa a acheté une tartelette à 346 euros. On leur dit, mais ça ne te choque pas que ce soit si élevé le prix. Et l'élève nous dit, ben non. Parce qu'il n'a jamais, il s'est jamais posé la question du prix d'un gâteau dans une pâtisserie. Donc l'idée, c'est que il est en change son regard sur tous ces nombres et puis qu'il les lise et qu'il se pose aussi des questions sur tous ces nombres qui nous entourent. Donc si on arrive à réussir ça chez les élèves, ça sera déjà très bien.
Mais je crois que c'est une problématique de toute façon liée à l'apprentissage en général. Et l'exemple que tu donnes, il est flagrant. Alors moi, je suis marié, enseignante de maths du second degré, donc on échange beaucoup sur ces problématiques-là et malheureusement encore dans le second degré, c'est des réponses qui, voilà, ou la tour Eiffel qui va mesurer 6700 mètres, ça pose aucun problème. Et en fait, ce que j'aime bien dans ton projet là, c'est toujours pareil. En fait, moi, dans les langues vivantes, on dit depuis des années, c'est décentrer l'objet en fait d'apprentissage de l'élève. C'est-à-dire que lui, il est pas en train de se dire au moment où il fait ça, chouette, je fais des maths, chouette, je suis en train de développer, je sais pas, la numération ou telle. Enfin, bon, moi, j'y connais rien dans votre didactique, mais voilà, c'est juste par contre qu'il est en train de travailler sur un projet, de résoudre des problématiques. Il y a des problématiques, il y a de l'action, il y a un projet actionnel là-dedans qui fait qu'il a besoin des mathématiques pour le résoudre. Et voilà, nous, en langue vivante, ça fait des années et des années qu'on travaille comme ça, avec cette fameuse approche actionnelle, avec la langue n'est qu'un objet, un outil qui me permet de résoudre un problème qui répond à un besoin de communication en ce qui me concerne. Oui. Et je crois que c'est vraiment important parce que c'est ce qui permet d'arriver, comme tu le dis, à éviter d'avoir des élèves qui disent « j'ai aucun problème à avoir qu'un prix d'une tartelette, c'est 326 euros » parce que finalement, après tout, des enfants, voilà. Il faut vraiment arriver, collectivement parlant, en fait, ça touche toutes les matières, arriver à décentrer un peu les apprentissages pour que mettre en action les gamins, quoi. C'est tout, je crois, enfin, il me semble.
L'idée, c'est effectivement qu'ils se posent des questions parce qu'on ne fait pas de mathématiques si on ne se pose pas de questions. Questionne pas. Parce que souvent, quand on voit certains fichiers, on se dit, tiens, c'est bien beau, ils sont jolis, ces fameux fichiers de mathématiques, il y a des petits personnages partout, des couleurs partout, mais que fait l'élève? En fait, il remplit les cases. Voilà, il remplit les cases, il n'a même pas besoin de mettre le signe, il met des nombres, il met des signes, mais il ne réfléchit plus à ce qu'il fait. Voilà. Nous, vraiment, l'idée, c'est qu'il se questionne sur le monde qui l'entoure, sur le monde mathématique, et qu'il soit aussi producteur et non pas simple exécutant. Il y a d'ailleurs un élève qui a dit à une enseignante qui s'est lancée dans ma tendie, qui lui a dit « Maîtresse, c'est la première fois qu'en mathématiques, on crée. » Parce que souvent, on est exécutant, il y a un calcul, il y a une chose à faire et il n'y a qu'un seul résultat de bon. On doit produire un résultat. Or là, le projet ouvre plein de possibles. Et quand l'élève il est créateur, et ben, quand par exemple on lui soumet une photo et on va demander à la classe et ben, de créer un énoncé de problème, et ben, il va y avoir 10, 15 ou 20 énoncés différents possibles. Et tous vont être, à partir du moment où l'énoncé, par exemple, ben, on peut résoudre le problème, et ben, tous vont être valides. Voilà. Quand on trie des photos, et bien, à partir du moment où les élèves vont, par exemple, justifier leur tri avec un critère mathématique, et bien, il y aura peut-être 2 tris possibles, ou 3, ou 4, ou 10 tris, 10 classements possibles. Voilà. On leur montre qu'il n'y a pas qu'une unique solution, mais qu'il y en a, plusieurs à partir du moment où elles sont justifiées mathématiquement. Et ça change un peu la vision des mathématiques que peuvent connaître certains élèves qui sont parfois enfermés dans, je veux dire, pas tous les fichiers, hein, mais dans certains fichiers.
Tu es gentil, ouais. Tu ne dis pas tous les fichiers, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, c'est le travers essentiel, même de ce que le rapport me semble l'avait mis en avant, à savoir que les élèves prennent l'habitude de devoir remplir, comme tu l'as dit, un fichier. Ouais. Et remplir un fichier, ce n'est pas les mathématiques, quoi. Les mathématiques,
non, mais
il faut répondre à des questions.
Ça, c'est clairement la problématique de tous les fichiers. Nous, en langue, on a les fameux workbooks. Hein, vous vous rappelez certainement de ça aussi, pareil au collège, dans les années collège. Moi, je travaille actuellement sur des manuels. C'est aussi des demandes éditoriales, faut pas se mentir, de produire des fichiers, des consommables. Voilà, il y a aussi une logique commerciale derrière tout ça. Et bah voilà, en écrivant moi-même pour ce genre de choses, on a réfléchi à la bonne utilisation. Je pense que dans ce que j'ai fait, on est arrivé à trouver des choses intéressantes. Mais vous avez tout à fait raison, en fait, dans toutes les matières, c'est ça. Ils sont habitués, ils sont tellement rompus au code du fichier, de l'exerciseur, choses comme ça, que finalement, de manière automatique, ils vont remplir des trous, quoi, sans forcément se poser les bonnes questions. Et voilà, et du coup, j'ai bien comme d'habitude oublié ce que je voulais surtout dire au début. Oui, ça y est. Je crois que pour travailler avec tous les collègues du premier degré à l'ESPE aussi, en faisant l'anglais pour l'ESPE, le problème de l'enseignant de premier degré, du professeur des écoles, c'est que vous êtes prof de toutes les matières, quoi. Et c'est très difficile de maîtriser la didactique de toutes les matières et d'être capable de produire, voilà, un prof d'anglais qui ne fait que de l'anglais tout le temps, il peut facilement se passer de fichier parce que c'est sa matière, il la maîtrise par cœur, il en maîtrise la didactique. Quand vous êtes sur toutes les matières comme le premier degré, où vous venez peut-être personnellement d'une licence de je ne sais quoi et qu'il faut enseigner l'opposé le lendemain, ces fichiers, ils sont aussi aidants quelque part, parce qu'on pourrait pas, on n'aurait pas le temps de tout générer, de tout travailler. Ouais. Quoi.
Je ne jette pas la pierre aux enseignants qui utilisent des fichiers.
Bien sûr.
Dire, on ne peut pas demander, et là, il faut qu'on soit très vigilant, nous, en tant que formateurs, on ne peut pas demander à des enseignants en première année d'enseignement ou en stage de construire tout leur contenu. On ne l'a pas fait, nous. Voilà. Donc, qui se raccroche à des fichiers, à des livres, c'est nécessaire et c'est utile. Il faut même si le fichier n'est pas parfait, même si le livre n'est pas parfait, mais au moins, ça offre un cadre, ça rassure, mais peut-être leur dire, leur montrer que dans certains documents, il y a certains traits à travers ou certaines choses ne seront pas abordées, voilà, qu'ils en prennent au moins conscience dans leurs premières années d'enseignement pour que progressivement, ils soient qu'ils aient un regard plus éclairé, effectivement, pour choisir un manuel ou un fichier, parce que je dis, il y en a des qui sont intéressants, mais dans lesquels il manque toujours forcément une dimension qu'il faut rajouter, voilà. Ou soit peut-être qu'ils arrivent à s'en détacher pour après avoir leur propre support. Mais un enseignant qui va utiliser un livre ou un fichier plus comme une banque de ressources, on a plus de chances qu'il ait un usage, je vais dire, comment on dit, pertinent dans… Enfin, je veux dire, j'arrive pas à trouver les mots, mais qu'il ait… une approche plus pertinente de la discipline, voilà.
Oui, mais de toute façon, c'est ça. C'est, je crois que les bons enseignants, en tout cas, je ne sais pas s'il y a de bons enseignants, mais ce sont des gens qui réfléchissent avant tout. Et voilà, c'est de la ressource, en fait, et être capable de dire, ça je prends, ça je ne prends pas parce que, ça je prends parce que, ça je saute, ça je passe, enfin voilà quoi. Et je crois que c'est vraiment ça, de toute façon, la réponse, elle est là, quoi. Elle est là.
Et puis le support ne fait pas tout, ça dépend de comment on l'utilise aussi. Voilà, donc le support ne fait pas de miracle. On peut très bien avoir un très bon support et très mal utilisé, ou avoir un support basique et puis avoir la réflexion derrière et puis en faire quelque chose d'intéressant. Voilà.
Tout à fait. Tout à fait. C'est une très belle conclusion, ma foi. Là-dessus.
Écoute, pour terminer, on a la tradition dans les teachers, c'est de demander à nos invités, et nous aussi on le fait d'habitude, ce que tu fais d'autre qui n'a rien à voir avec le métier. Si tu veux partager, je ne sais pas, un coup de cœur pour un livre, pour un film, pour un média, pour une série, pour une activité, n'importe quoi, on termine toujours par une rubrique qu'on appelle pour parler d'autre chose. Donc, ma foi, si tu veux parler d'autre chose, tu en as la possibilité. On ne t'avait pas forcément dit avant de le faire.
On est comme ça. Rassure-toi, j'ai été bizuté de la même façon.
Donc si tu n'as rien de spécial à dire, ma foi, voilà. Mais j'en suis sûr que Seb, toi, tu as peut-être quelque chose à dire le temps que notre invité trouve quelque chose. Voilà.
Sans problème. Là, je vais laisser le temps à Christophe, s'il veut.
Tu en as besoin, Christophe ? J'ai la chance d'habiter en fait une très belle région. J'ai un balcon face au Mont Blanc. Et c'est vrai que pour nous, j'aime beaucoup le vélo. Donc, je suis venu ici quand même parce que j'adorais le VTT et le ski également, même si je ne suis pas un excellent skieur. Hein, je suis un skieur qui vient des Pyrénées. Donc, vous voyez, ce n'est pas les mêmes profils. Mais ce qui est plaisant ici, c'est que quand on passe une journée au ski ou quand on va faire une balade en vélo, on se croit en vacances alors qu'on n'est pas parti en vacances. Voilà, donc c'est vraiment un gros privilège qu'on a. On est dépaysé, même à 10 km de chez soi. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Ça fait du bien parce que c'est vrai que les semaines sont denses, sont intenses. On est dans plein de projets, on se lance dans plein de choses. Mais c'est vrai que Une sortie en vélo de 4-5 heures dans les montagnes ou une journée au ski, et ben, du coup, on a l'impression le soir de revenir de vacances, pour peu qu'on se prépare une petite fondue quand il fait.
Quand tu dis que ta circonscription est la plus haute de France, c'est-à-dire que vous êtes à quelle hauteur?
Alors, je sais, honnêtement, je vous ai un peu menti, je ne sais pas si on est le plus haut de France, mais vu qu'on a le Mont-Blanc. Vu qu'on a le Mont Blanc qui est juste à côté de nous, ben on s'estime comme les plus hauts de France, mais bon, on l'est peut-être pas parce que je crois que on croit que la Haute-Savoie est la plus haute, mais la Savoie à côté de nous, eh ben, je crois qu'il nous bat au niveau altitude quand même.
Bon, voilà. C'est quand même plus haut que Nice en tout cas, n'est-ce pas, Seb?
Non, ben c'est pas difficile.
C'est pas trop...
Forcément.
Bon, ben super.
Oui. Un petit quelque chose, toi, pour finir?
Non. Vas-y, toi, t'as quelque chose, le temps que j'ai.
Un petit quelque chose très sympa. Moi, j'écoute pas mal de podcasts, en plus de participer à un certain. Donc, si vous êtes un peu curieux, si vous voulez écouter quelque chose qui change tout le temps, je suis tombé sur un podcast qui est hébergé par Binge Audio et qui s'appelle « À dérouler ». C'est une jeune femme qui, en fait… a fait un petit montage audio d'une lecture d'un thread Twitter. Alors, ça part dans tous les sujets. Ça va, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui parle de son ancien enseignant de CE2 jusqu'à quelqu'un qui te parle de harcèlement dans le bus, etc. Simplement de ces discussions sur Twitter qu'on peut croiser de temps en temps. Et elle met ça en son et c'est très plaisant. Et il n'y en a pas un qui ressemble au suivant. Il y en a qui parlent de dinosaures, il y en a d'autres. Ça part dans tout à fait d'autres sujets. Donc, à dérouler en podcast, c'est très sympa.
Ouais, super. Bah, écoute, on aura eu un peu une bouffée d'air frais avec notre invité de Haute-Savoie qui nous aura parlé de son beau pays. Ça fait envie quand même. Moi, je reconnais que quand je suis dans la grisaille entre la Loire et le Rhône pour aller à Lyon depuis ma ville natale de Saint-Étienne, je me dis des fois que ça doit être pas mal quand même le matin d'avoir le Mont Blanc en face de soi.
Mais on a aussi la pollution, hein. Je veux dire, on a.
Ah
on a
bah, voilà. Bah, y a pas de raison.
Tout n'est pas parfait.
Bon, quand même. En tout cas, merci beaucoup de ton intervention, Christophe. Ça fait plaisir d'échanger avec tous nos invités et puis les personnes qu'on peut croiser comme ça dans le milieu, comme l'a dit Seb tout à l'heure. Merci pour ces innovations, merci pour cette énergie et cette volonté de vouloir faire un peu bouger les choses. Voilà, Seb.
C'était une première pour moi.
Et c'était très bien.
Un bel essai transformé. Si on veut te retrouver, Christophe, où peut-on le faire?
Alors, où peut-on le faire? Ben, via mon site, on peut me contacter. Sur Twitter, donc j'ai un compte qui a le même nom que le site, qui est Clastis. J'anime également le compte Matenvie, donc sur lequel les enseignants peuvent découvrir et puiser plein d'idées, voir ce que font aussi les classes. Voilà, donc plein de moyens de me joindre. Et puis, je suis toujours ravi en fait d'échanger avec d'autres enseignants. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, moi, il y a quelques années, on m'aurait parlé des réseaux sociaux. J'aurais dit, ouais, bon, c'est pas pour moi. Mais aujourd'hui, même en formation, je dis, mais il faut que vous y soyez en tant qu'enseignant. On peut pas passer, vous pouvez pas passer à côté, en plus de ces outils-là qu'utilisent vos élèves. Voilà, donc, je suis très présent sur les réseaux.
Et on t'en remercie.
Et j'espère que c'est effectivement un canal qui sera de plus en plus utilisé par l'ensemble de nos collègues, nous qui sommes déjà rompus et convertis. Bon, bah écoute, on va se laisser sur ça, une heure d'émission bientôt, hein, c'est plutôt joli, nous qui avons plutôt l'habitude de tabler sur des formats de 30 minutes, mais il y avait de quoi échanger. Non, t'inquiète pas, Christophe.
Non,
Non, pas du tout. On dépasse aussi allègrement souvent, mais c'est très bien. Ça prouve que justement, il y a de quoi te dire. Et on n'est pas limité. Ce n'est pas YouTube qui nous facture autant. Pas du tout. En tout cas, à très bientôt, chers auditeurs. On se retrouve pour une émission normale. Je ne sais plus quand, Seb, mais je crois après les vacances peut-être.
Après les vacances.
Voilà, un petit coucou à Jeff et à Seb qui nous ont certainement écoutés ou qui vont le faire, on en est certain, et à vous tous bien sûr pour votre fidélité toujours plus importante puisque les écoutes sur nos différents supports de SoundCloud entre autres sont de plus en plus nombreuses. N'hésitez pas également à laisser un petit message sur iTunes si vous avez l'occasion de vous abonner par iTunes. Une petite étoile aussi, c'est pas mal. Seb, si on veut te retrouver traditionnellement, comment on fait ?
Oh ben, on va sur l'oiseau bleu et on tape @stuteur, S-T-U-T-E-U-R, et vous vous retrouvez avec moi.
Ah, l'oiseau bleu, c'est, on dirait une drogue, c'est marrant.
Ouais,
prenez de l'oiseau bleu. Ok, moi c'est @willowteach, W-I-2-L-O, le tiré du 8 underscore, donc teach, T-E-A-C-H. Il faut vraiment que je le change parce que c'est de pire en pire.
Non, pas ce qui...
Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à très bientôt sur le podcast.
Bonsoir.
Merci, au revoir.